C'est une histoire extrêmement émouvante que nous raconte Caroline Touzin dans La Presse d'aujourd'hui. Elle raconte l'histoire donc de Marie-Ève Couture. Marie-Ève Couture, 35 ans. Alors, je vous lis les premières phrases. L'aide médicale à mourir lui a été refusée une première fois parce qu'elle n'était pas en fin de vie. Puis, Marie-Ève a pratiquement cessé de manger. Son état de santé s'est détérioré. Vendredi dernier, le docteur Pierre Vien l'a soulagée de ses souffrances. La jeune femme de 35 ans a accueilli la presse chez elle pour ses derniers moments. Pour montrer aux politiciens que tout le monde devrait avoir le droit de mourir dans la dignité. Et là, elle cite Marie-Ève. Et là, le papier raconte... À 14 heures, Marie-Ève a rendez-vous avec la mort. Elle est allongée dans un lit d'hôpital prêté par le CLSC. Il raconte son histoire. À un moment donné, elle est devenue incontinente. Même le puissant cocktail de médicaments avec du fentanyl et tout ça n'était pas suffisant pour soulager ses douleurs. Elle était atteinte de la maladie de Crohn. Une forme très, très virulente, très souffrante de la maladie de Crohn. Elle s'est vue refuser une première fois l'aide médicale à mourir, puis finalement, sa requête a été acceptée. Et c'est là qu'arrive le docteur Vien, qui pénètre dans le petit logement du quartier Vanier, donc ça se passe à Québec. Docteur Pierre Vien, médecin de famille, bonjour.
Bonjour, M. David.
Alors, restez avec moi parce que je vais juste raconter encore un petit bout, puis après ça, vous prenez le relais, OK? Alors, après avoir ri une dernière fois, Marie-Ève fait sortir toute sa famille. Là, elle reste un dernier tête-à-tête avec les gens les plus près d'elle, là. Ses parents, son frère, etc., etc. Et là, elle dit « C'est la plus belle des morts. J'ai le temps de dire au revoir à tous ceux que j'aime et je vais partir sans souffrir. Je souhaite cela à tout le monde. » Là, il feuillette pour une dernière fois l'album de famille de Marie-Ève. Et là, elle referme l'album de photos à 13h55. Puis là, elle dit « C'est l'heure. » Et racontez-nous, docteur Vien, parce que c'est déjà écrit, là, je ne pense pas qu'on brise quelques secrets que ce soit. Là. Racontez-nous la suite de l'histoire. Comment ça se passe, l'aide médicale à mourir, pas juste sur le plan technique, mais sur le plan émotif?
Ben, écoutez, Marie-Ève est la 68e personne que j'aide à mourir de cette façon à domicile. Et ce qu'elle raconte là-dedans, quand elle dit que c'est la plus belle façon de mourir et je la souhaite à tout le monde. Ben, moi, j'ai vécu ça 68 fois, sans aucune exception.
Vraiment?
Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a tout le processus avant ça. Quand Marie-Ève a fait sa demande d'aide à mourir pour la deuxième fois, c'était quelques semaines après le premier refus. Et là, la maladie s'était gravement détériorée. Les deux derniers mois, Marie-Ève était incapable de garder quelque nourriture que ce soit. Elle mangeait peut-être tous les 3-4 jours et elle vomissait ça. Elle était rendue dans un état de dénutrition qu'au CHUL de Québec, à l'hôpital universitaire, tout le monde était surpris qu'elle soit encore en vie, rendue à cet état-là. Quand elle a fait sa deuxième demande, c'est évident que... moi, je l'ai reçu, je l'ai accepté. Marie-Ève voulait que voulait terminer sa vie de souffrance à la maison. Et comme je suis probablement un des rares médecins de la région de Québec qui accepte de donner l'aide à mourir à domicile, j'ai pris sa demande. Et je suis allé la voir, sa famille. J'ai vérifié que sa condition était conforme à toutes les conditions de la loi, y compris à cette maudite condition de fin de vie qui avait fait échec la première fois. Et là, Marie-Ève, de façon lucide, consciente, a déterminé le jour et l'heure où ça se passe. Pourquoi le 8 septembre? Parce que c'était le lendemain de l'anniversaire de sa maman. Quand elle m'a demandé à 2 heures, si j'étais prêt à procéder. comme c'est décrit dans le livre et comme on fait dans tous les cas d'aide à mourir, on commence par une première injection qui consiste à la plonger dans un sommeil profond, un sommeil naturel profond. Quand elle commence à ronfler, là, à ce moment-là, on ajoute un autre médicament qui approfondit le coma pour être bien certain qu'elle n'aura pas de réaction secondaire au médicament qu'on doit lui donner. Et une fois qu'elle est arrivée au stade de coma profond, une dernière injection a pour objectif de paralyser les muscles de la respiration et le décès survient.
Sans aucune souffrance.
Sans aucune souffrance. Aucune du tout. Le médicament qui est utilisé pour l'endormir, la plupart des gens connaissent ce médicament-là. C'est le même médicament que les anesthésistes vous donnent quand vous arrivez sur la civière avant d'entrer dans la salle d'opération. Et l'anesthésiste vous demande « comptez jusqu'à 3 » et vous n'arrivez même pas jusqu'à 2. C'est ce même médicament-là.
C'est le propofol, c'est ça?
Non. Le premier médicament, c'est le midazolam.
Le midazolam, le premier. OK.
Et
le...
Okay. C'est un sédatif qui en quelques secondes, littéralement, ouais, vous plonge de façon naturelle et tout à fait confortable dans un sommeil très profond.
Et par la suite, c'est le propofol et le dernier, c'est le curare. Alors,
le curare.
Bon. Je veux revenir sur... Alors, dans le papier de Caroline Touzin, qui est vraiment quelque chose, la journaliste raconte que juste avant, là, ou peut-être juste après la première piqûre, là, elle lance un dernier clin d'œil à sa mère.
Oui.
Et puis là, elle part.
Oui.
Puis vous nous dites que c'est cette espèce de sérénité, c'est ce que vous avez observé 68 fois sur 68 avec les...
68 fois sans aucune exception. Il m'est arrivé d'arriver dans des maisons où c'était la grand-maman qui avait demandé l'aide à mourir. Et il y avait parfois 15, 20 personnes qui étaient toutes en larmes et tout. Et la vieille grand-mère qui saute de son lit et va les rencontrer un par un pour les consoler, pour les encourager. Et quand elle a fait tout le tour, elle retourne dans son lit puis elle me demande « veuillez m'endormir ». C'est toujours comme ça que ça se passe.
Puis vous vivez ça comment, docteur? Parce qu'écoute, moi, ça me donne le moton, puis j'imagine, il me semble que...
Vous avez raison d'avoir le moton. Mais je l'ai aussi. Sauf que, pour moi, c'est... je suis obligé de dépasser. Je ne peux pas me faire abstraction de l'émotion énorme qu'il y a là, parce que après 68 occasions, je suis encore surpris de voir cette sérénité et ce calme. Les patients qui vont avoir l'aide à mourir sont souriants, ils sont complètement présents. C'est comme si ils avaient décidé de partir en vacances pour une longue période de temps et ils invitent des parents et des amis à la maison pour leur dire au revoir.
Ouais. Écoutez.
Et quand les gens me demandaient parfois, mais c'est impossible, comment vous faites, vous, un médecin, comment vous vous sentez quand vous quittez la maison puis vous venez de tuer quelqu'un? Monsieur Drinville, j'ai jamais tué personne. Tuer, ça veut dire enlever la vie. Il n'y en a plus de vie, là. Il n'y a plus de vie humaine chez les patients qui en sont rendus à cette extrémité de devoir demander à cesser leur vie biologique parce que c'est la souffrance qui a pris toute la place. Bon. Alors, moi, j'ai jamais tué personne, j'ai jamais enlevé la vie à personne. J'ai simplement enlevé de façon efficace et douce la souffrance.
C'est ce que j'allais vous dire. Les gens sont sereins parce qu'ils ont beaucoup souffert, hein? C'est ça? C'est comme une espèce de libération aussi, hein?
Oh, mais c'est une totale libération. Le premier cas que j'ai fait, à la fin, ça se fait toujours dans un silence respectueux énorme. À la fin de la procédure, c'est la fille aînée de la vieille dame qui a pris la parole et qui a dit « c'était une messe de la libération ». Et c'est ça que c'est. C'est une libération. Les patients me le disent tous. La moitié des patients que j'ai pu servir jusqu'à maintenant, quand je leur demande à la toute fin, est-ce que Je lui dis, moi, je ne suis pas pressé, là. Est-ce que vous avez encore quelque chose? Est-ce que vous voudriez dire quelque chose aux gens qui sont autour de vous? La moitié m'ont fait un signe de m'approcher et m'ont dit, merci d'avoir été là.
Parce qu'il faut le dire, hein, vous êtes... Il n'y en a pas beaucoup de médecins comme vous. Hein? Vous l'avez dit, là, vous êtes un des rares qui se rend à domicile. Mais je pense que de façon générale, il y a encore beaucoup de médecins qui sont très réfractaires à l'idée de donner l'aide médicale à mourir. Hein? Vous êtes...
Oh oui. Après 3 ans de mise en place de l'aide médicale à mourir au Québec, on se rend compte maintenant que c'est une affaire de volontaire et ça va toujours être une affaire de volontaire.
Notamment parce que c'est, je m'excuse de le dire comme ça, là, mais c'est une procédure qui prend quand même quelques heures et donc tu peux pas faire chic-chic-chic-chic. En d'autres mots, là, je vais le dire comme ça, là, c'est un peu cru, là, mais mettons que c'est pas ce qu'il y a de plus payant pour la profession.
Non. C'est pas ça qui est le gros problème. Là. Moi, je les comprends parfaitement, les médecins qui veulent pas s'embarquer là-dedans. Parce qu'ils s'embarquent dans l'incohérence de 2 lois qui n'ont pas eu la décence d'être suffisamment précises. Elles laissent la décision, elles laissent les jobs de bras aux médecins. Quand la loi dit « il faut être en fin de vie », la phrase s'arrête là. Elle dit pas « qu'est-ce que c'est être en fin de vie », elle dit « c'est au médecin de le définir ». Et quand le médecin essaye péniblement de le définir, ben, il s'expose à se faire taper sur les doigts. Les médecins veulent pas s'embarquer là-dedans parce que...
Parce qu'ils pourraient être poursuivis? Ils pourraient être poursuivis?
Mais c'est d'une complexité et d'une opacité juridique absolument inacceptable.
Mais c'est très long, non? Les documents à remplir et tout ça, c'est très, très long, docteur Vien, non?
C'est long, mais c'est pas ça qui est le plus grand problème. Cette question, c'est sûr que... Ben, moi, j'ai pu me permettre jusqu'à maintenant de donner ce cadeau-là à 68 personnes parce que, ben, je suis vieux, je suis supposé être à la retraite puis j'ai rien à faire. Donc, j'ai le temps de faire ça. Ça prend du temps pour faire une procédure d'aide à mourir. Il faut d'abord établir une connivence, établir une relation profonde avec le malade. Et ce sont des gens qui, la veille, moi, je connaissais pas, là.
Oui.
Et j'ai quelques jours pour arriver à développer un lien de confiance suffisant. Bon, puis il y a aussi toutes les familles. Mme Touzin le dit dans l'article, c'est une moyenne de 10 à 15 heures. Et quand vous vous dites que c'est par période de quelques heures à domicile, ben ça commence à représenter effectivement une charge. Mais c'est pas là qu'est le véritable.
D'accord.
Le problème, c'est que les médecins ne savent pas comment ça marche. On peur de s'embarquer là-dedans, à raison.
D'accord.
Il y en a plusieurs qui me disent, écoutez, ça veut dire, j'ai déjà vu de mes patients mourir, mais c'est pas ça, là. Là, la patiente me demande de plonger dans le processus de mourir avec elle de façon intense, jusqu'à temps qu'on arrive à terme. Et les jeunes médecins, puis les moins jeunes aussi, me disent, ben, moi, je suis pas capable, j'ai pas appris ça, je me sens pas à l'aise là-dedans, je serais pas capable de faire ça.
Ouais, moi non plus, je serais pas capable. Docteur Vien, faut que je vous remercie parce que je dois aller à la pause, hein. Vous comprenez? Puis j'y vais très délicatement parce que je réalise le sérieux de la discussion qu'on a présentement. Mais je veux juste vous dire, j'avais dit aux auditeurs, je pense que ce médecin-là est exceptionnel, puis je pense que les gens vont conclure que vous êtes vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Vous avez 81 ans, je le rappelle. J'espère que vous allez vivre encore longtemps, docteur Vien, et peut-être qu'un témoignage comme celui que vous venez de nous donner va peut-être inciter ou encourager des médecins plus jeunes à marcher dans vos traces. Donc, je rappelle que vous êtes médecin de famille, vous vous appelez Pierre Vien, docteur Pierre Vien, et vous avez aidé Marie-Ève Couture, 35 ans, à partir il y a quelques semaines de ça. Merci, docteur Vien.